Lui cordialement la délégation qui est ici, mais aussi qui nous suit depuis Macao en ligne. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Bonjour aux représentants donc de Macao Chine, les représentants dans la salle et qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, j'aborderai les points 9 et 15. Point 9 qui porte sur la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je vous remercie d'avoir fait part des dispositions proposées aux personnes qui demandent le statut de réfugiés ainsi que leurs familles. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il en est du statut des deux personnes qui ont donc fait une demande pour obtenir le statut de réfugié depuis déjà 10 ans. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait conforme aux dispositions et à la procédure en vigueur en vertu de la législation. Quelles sont les raisons de ces retards et qu'avez-vous fait pour mettre enfin terminer donc le traitement de ces demandes et pour éviter que de tels retards se reproduisent à l'avenir? Le bureau donc pour les affaires sociales a proposé une aide humanitaire à ces personnes ainsi qu'à leurs familles, mais le bureau donc fait régulièrement rapport à la commission pour les réfugiés. Et fort de ces informations, j'aimerais avoir les précisions suivantes. De quel type de prestations humanitaires disposent ces deux familles? Outre, bien sûr, le logement et une aide financière, est-ce qu'elles peuvent prétendre à une aide juridictionnelle, à des services de santé? Est-ce que leurs enfants peuvent aller à l'école? Est-ce que tous ces services leur sont proposés et garantis pendant le traitement de leur dossier? Étant donné qu'en 2016, seules 8 demandes ont donc été reçues et déboutées, j'aimerais justement connaître la raison de ce refus. Avez-vous des statistiques concernant le nombre de demandes dont vous êtes saisi et le nombre d'autorisations octroyées au jour d'aujourd'hui? J'en viens maintenant à la question 15 qui porte sur la pénalisation de la diffamation. Le comité, dans son observation générale numéro 34, dans son paragraphe 47, a précisé, mais aussi lors de différents dialogues avec des États parties, que la diffamation ne devrait jamais être pénalisée et que toute forme de pénalisation devrait se limiter aux cas les plus graves de la diffamation. En outre, l'emprisonnement ne devrait jamais être une peine encourue. Ce n'est pas la solution, même dans les cas les plus graves. Je n'ai pas cru comprendre que la Chine avait l'intention de dépénaliser la diffamation, c'est ce que vous nous avez vous-même dit. Pire encore, vous avez envisagé donc d'alourdir les sanctions encourues. D'après ce que nous savons, les forces de police menacent très souvent des personnes si elles menacent d'exercer leur droit donc à la liberté d'expression avec les conséquences que cela peut avoir. J'entends bien ce que précisent les dispositions du code pénal. Elles pénalisent donc les insultes ou toutes les formes, donc notamment les formes de diffamation. Surtout s'il y a des circonstances aggravantes, si on porte atteinte au drapeau ou à l'hymne national, les contrevenants sont passibles de 160 jours à amende ou de 3 ans donc de peine de prison. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si Macao entend aller vers et ce que prévoit notre comité, à savoir la dépénalisation de la diffamation, notamment pour les fonctionnaires publics, et surtout lorsqu'il s'agit donc d'atteinte ou d'insulte envers l'hymne ou le drapeau, c'est-à-dire pour éviter des peines de prison surtout. Et puis, disposez-vous donc du nombre de poursuites en justice, de condamnations, et si oui, donc quelles ont été justement les peines encourues par les intéressés? J'aimerais également avoir une réponse sur des préoccupations selon lesquelles la disposition, la législation ne prévoit pas une définition exhaustive de l'insulte. Ce qui veut dire que toute personne qui émettrait une opinion critique envers le gouvernement, eh bien, se retrouverait dans la même situation que celle auquel il ou elle se retrouverait en Chine continentale. Est-ce que vous faites une distinction entre les victimes du crime qui sont les citoyens privés et qui doivent donc, par exemple, intenter une action en justice à leurs propres frais, et les citoyens inculpés de diffamation, justement, à condition que cela n'engendre pas donc le moindre coût, donc ils ne paient pas le moindre centime. Comment vous justifiez cette distinction? Qu'en est-il de la loi sur la protection civile entrée en vigueur en septembre 2020? Je pourrais comprendre que il existait désormais un délit contre la sécurité intérieure et la paix, et qui s'inscrit donc dans le contexte de la diffusion donc de rumeurs qui pourraient porter préjudice donc au gouvernement central, de fausses informations notamment. Donc quel est, disons, le seuil en deçà duquel on peut considérer qu'une personne donc a commis ce délit? Y a-t-il eu des poursuites? Et si oui, eh bien, à quoi les intéressés ont-ils été condamnés? Et comment justifiez-vous l'arrestation de deux personnes âgées en 2017 qui avaient publié sur les réseaux sociaux donc des informations selon lesquelles le gouvernement n'avait pas révélé toutes les informations concernant le nombre de victimes qui avaient fait une catastrophe naturelle? Voilà, ce qui là encore va à l'encontre des dispositions du pacte, notamment de l'article 19. Et puis, est-ce que à Macao-Chine, eh bien, les lanceurs d'alerte sont protégés comme il se doit? Voilà, j'attends avec intérêt les réponses que vous nous fournirez. J'en ai terminé, je vous remercie.